Un des passages les plus curieux de la Bible est un passage des évangiles où Jésus nous parle d'un seul et unique péché qui ne peut être pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ce péché terrible, ce péché dramatique, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors heureusement, nous trouvons ce passage bizarre et choquant. Heureusement, c'est que nous avons bien intégré le message central de l'Évangile, l'amour que Dieu a et gardera pour toute éternité pour chaque personne. Même quand elle est son ennemi, nous dit Jésus, même quand elle persécute Dieu, qu'elle le maudit et qu'elle lui fait du mal. Alors, puisque la Pentecôte est la fête du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit, je vous propose de regarder d'un peu plus près ce que cela veut nous dire, de recevoir l'Esprit ou au contraire de blasphémer contre lui. Apparemment, il y a là une question essentielle, puisque Jésus en fait une parole choquante, une parole provocante, une parole pour nous faire avancer. Alors d'abord, le récit de la Pentecôte au chapitre 2 du livre des Actes, les quatre premiers versets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle puissant qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors voilà le récit de la Pentecôte. Et ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, à partir du verset 22, ce passage où Jésus nous parle de ce curieux et dramatique blasphème. On amena à Jésus quelqu'un qui était possédé de démons, qui était aveugle et muet. Et Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule fut comme saisie et elle disait : N'est-ce pas là le fils de David ? Les pharisiens l'ayant appris dirent : Non, cet homme ne chasse les démons que par le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsisterait-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors je voudrais vous lire ensuite ce passage dans le même évangile selon Matthieu qui rappelle l'amour incroyable, éternel, que Dieu a même pour les pires pécheurs, pour que ce texte finalement fasse le pendant de ce texte curieux, bizarre et choquant que je viens de vous lire. C'est au chapitre 5, les versets 43 à 48, que je voudrais vous lire maintenant. Jésus dit : Vous avez entendu qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est alors que vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous là de bien extraordinaire? Les païens aussi n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces textes en nous-mêmes, de chanter le cantique 171, « Rends-toi maître de nos âmes ». Ce cantique 171, dans le recueil bleu, louanges et prières, les trois premières strophes. Éternel, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à ta porte par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, viens à mon aide. Oui, tu le feras dans ta grande bonté, tu le feras largement, pourvu que, lorsque tu parles, moi-même, je ne détourne pas mon oreille. Car tu écoutes avant même qu'on t'écoute. Éternel, tu accueilles nos demandes. Fais maintenant que l'on accueille tes réponses. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Ce que la Bible appelle l'Esprit Saint est une des façons dont Dieu agit dans le monde et en nous. Le mot hébreu « ruach » en hébreu, donc, est un mot féminin. Il désigne le souffle ou le parfum ou un vent léger. C'est dans tous les cas quelque chose d'invisible, mais dont les effets sont perceptibles. On sent que l'air dans nos poumons donne la vie. On sent l'odeur d'un parfum et ça nous réjouit. On sent un courant d'air caresser notre peau. C'est invisible tout cela, mais c'est bien réel. Dieu est ainsi, nous dit la Bible. Et dès la première phrase de la Genèse, l'Esprit de Dieu entre en scène, il est source d'un commencement formidable. Construisant de belles choses à partir du chaos, il construit des choses qui ont du sens et qui sont bonnes, qui sont très bonnes. Il est significatif, je crois, que ce mot hébreu « ruach » soit féminin, car finalement cette façon d'être de Dieu, que désigne le mot « esprit », cette façon d'être est bien celle d'enfanter la vie, puis de chercher à nourrir, à éduquer, à élever. Élever dans les deux sens du terme, comme on élève un enfant et comme on élève quelqu'un à une haute fonction en lui donnant dignité, responsabilité. Dans le récit de la Pentecôte, cet Esprit de Dieu se manifeste sous forme de langue de feu, nous dit le texte. Ce qui nous propose encore deux images supplémentaires pour préciser ce que Dieu veut nous apporter, veut nous donner pour nous élever et pour nous faire vivre. Le don de Dieu est offert sous forme de langue. Et effectivement, les disciples arrivent alors à communiquer avec les autres qui comprennent ce que disent les apôtres. Ils le comprennent comme s'ils parlaient dans leur langue maternelle. Et le don de Dieu se manifeste comme du feu, le feu qui éclaire et le feu qui purifie, le feu qui s'est trouvé même dans le plus pauvre minerai, le métal qui est caché à l'intérieur. Le feu de la Pentecôte permet aux disciples désespérés de vivre et de transformer le monde par la parole de vie. Parmi les grandes inventions de l'humanité, la maîtrise du langage et celle du feu sont sans doute essentielles. Le langage permet de communiquer avec les autres et de progresser de génération en génération. Il permet de tenir compte des avancées et des erreurs des autres. Il permet de faire ensemble des projets. Il permet de dire aux autres notre amour et de demander pardon. La maîtrise du feu a été une autre invention incroyable, une source de libération et de vie pour l'homme, qui a permis aux humains de vivre mieux et plus libre, d'abord pour s'éclairer et puis pour se protéger du froid, des bêtes sauvages. Mais ensuite, la maîtrise du feu a permis également de purifier les aliments et donc de ne pas s'empoisonner en mangeant des mauvaises choses, et de purifier le minerai pour en tirer le métal. Le métal pour se former des bijoux en or et des outils qui facilitent la vie, qui rendent plus efficace notre présence au monde. Donc ces avancées extraordinaires que sont le langage et le feu sont de bonnes images pour évoquer ce qu'apporte la présence de Dieu dans notre être, dans notre vie. Le langage et le feu ont permis à l'humain de franchir des étapes importantes. L'Esprit Saint représente une nouvelle étape dans l'évolution de l'homme, dans notre évolution. C'est ce que nous dit Jésus dans ce fameux texte de l'Évangile selon Jean, où il nous dit que la clé pour vivre le royaume de Dieu, pour devenir finalement réellement enfant de Dieu, un peu à son image, créateur, plus libre, plus aimant, c'est de naître de nouveau, de naître d'en haut, de naître de Dieu lui-même, et non seulement de la chair et du sang. L'Esprit, oui, nous rend plus libres et plus autonomes, comme la lumière et comme la chaleur du feu. L'Esprit nous permet aussi de communiquer avec les autres, en vérité. Nous nous parlons alors comme si nous avions la même langue maternelle. Nous pouvons enfin nous comprendre un petit peu et être compris de nos frères et sœurs. Et comme le feu permet de purifier le minerai, l'Esprit nous permet de purifier notre regard sur la vie, sur notre prochain et sur nous-mêmes, de porter un regard d'amour qui garde le meilleur, qui vit de l'espérance et qui vit dans la fidélité. Nous avons tous évidemment bien besoin de recevoir cette nouvelle étape d'évolution et de la recevoir encore et encore pour progresser. C'est ce que reconnaît l'apôtre Paul. Il constate dans un passage de la lettre aux Romains à la fin du chapitre 7 et au début du chapitre 8, Paul constate avec amertume qu'il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire, mais qu'il fait si souvent, trop souvent, le mal qu'il ne voulait pas faire. Et Paul se sent comme s'il était esclave d'un principe qui est comme inscrit dans sa chair. Et Paul termine cette confession sur ce cri « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et donc Paul témoigne ainsi de ce qu'il a vécu et de ce qu'il espère vivre encore, bien sûr, de plus en plus. Il lui a d'abord fallu se reconnaître comme prisonnier de lui-même pour s'ouvrir à l'aide de Dieu et ensuite vivre cette aide de Dieu et pouvoir rendre gloire, rendre louange à Dieu. Pour cela, il a expérimenté l'extraordinaire puissance de résurrection qu'est Dieu. Cet esprit qui nous aide à nous libérer progressivement, étape par étape, libérant notre capacité à faire du bien, capacité à aimer, à espérer, à communiquer en vérité. Nous sommes, comme le dit Paul dans ce passage, soumis à des instincts qui sont profondément inscrits dans notre corps, dans notre chair. Peut-être que le plus profond de ces instincts est l'instinct de survie, qui nous fait fuir et même lutter contre ce qui est source de mal en nous, ce qui nous fait du mal, ce qui nous agresse et ce qui nous tue. Cet instinct de survie est une bonne chose quand il nous pousse à retirer notre main quand quelque chose la brûle. Mais si ce réflexe, cet instinct de survie, nous domine dans le rapport que nous avons avec les autres et avec notre existence, alors nous sommes très très mal partis. Car alors tout effort nous est insupportable, toute frustration nous devient impossible à vivre, et puis aucune amitié, aucun couple, aucune famille, aucun groupe humain ne peut tenir, ne peut résister. En effet, comme le dit Jésus, l'instinct de survie nous a appris à aimer ceux qui nous aiment, qui nous font du bien, et à haïr ceux qui nous font du mal. Le problème, c'est qu'avec ce système, tout groupe humain tend alors nécessairement à l'éclatement ou à la destruction progressive de chacun de ses membres, en commençant par les plus faibles, les plus petits, les plus désagréables. Dès qu'un de ses membres, en effet, dans cette logique, se porte moins bien, dès qu'il fait une erreur, dès qu'il ralentit le groupe, dès qu'il est moins performant, les autres vont alors sentir qu'il y a dans cet individu une menace pour le groupe, pour eux-mêmes, et ils vont alors le fuir, le haïr ou tendre à l'éliminer. Jésus montre, et je crois que c'est génial, c'est une véritable évolution dans la pensée, qu'il faut arriver à vivre dans une logique exactement inverse à l'instinct de survie. Pour vivre vraiment, il faudrait que nous aimions notre prochain, même quand il devient un problème. Car c'est même là que c'est le plus important de l'aimer, même unilatéralement. C'est là qu'il faudrait redoubler d'énergie, non pas pour l'éliminer, mais au contraire pour essayer de le comprendre et pour essayer de l'aider à aller mieux, à évoluer, à progresser, à grandir. Et donc la solution d'avenir, c'est de bénir une personne qui nous pose un problème. C'est de lui vouloir du bien, c'est de lui faire du bien, si possible. Et même de prier Dieu pour que cette personne, d'autant plus qu'elle se porte mal et qu'elle nous fait du mal. Et alors, le système que forme un couple a une chance de tenir. Une famille, une église ou un peuple peut demeurer vivant et peut même demeurer vivifiant pour chacun de ses membres, pour l'ensemble de ses membres. Le problème, comme le dit Paul, c'est que la moindre des cellules de notre être a appris qu'il faut dresser des barrières contre ce qui nous agresse, qu'il nous faut éliminer les cellules malades pour les remplacer par d'autres qui seraient toutes neuves et qui seraient plus performantes. Le problème, c'est que des blessures et des préjugés nous sont transmis par les générations précédentes sans que nous ayons bien conscience de ces prédéterminations et que, là encore, nous sommes tenus. Et ainsi, oui, comme le dit Paul, nous naissons esclaves. Ce n'est pas naturel d'aimer nos ennemis, ce n'est naturel pour personne. Ce n'est déjà pas facile de penser que ce serait une bonne idée de les aimer, de leur faire du bien, de prier pour eux. Mais même quand Jésus nous persuade que c'est une bonne idée d'aimer nos ennemis, eh bien ce n'est pas encore gagné pour autant. Car quand nous sommes face à la réalité d'une personne qui nous a fait du mal, qui nous a trahis, c'est plus fort que nous et nous sommes, comme le dit Paul, mais nous avons tous cela en commun, incapables de mettre en pratique le bien dont nous avons pourtant une pleine conscience. Mais l'Évangile n'est pas seulement un recueil de bons conseils pour avancer et pour être heureux. C'est cela, oui, mais c'est aussi plus et mieux que cela. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'avec la connaissance de ce qui est bien, de ce qu'est le bien, Dieu nous donne les moyens de faire mieux, les moyens de devenir ce bien que nous espérons. L'Esprit, c'est cette puissance de Dieu qui nous éclaire, qui nous fait sentir ce qui est bien, mais qui nous aide également à progresser dans la capacité à faire le bien, ce bien que nous avons envie de faire. Une puissance de libération pour nous libérer d'une certaine part de nous-mêmes, non pas pour la nier, mais pour que ce ne soit pas elle qui gouverne toujours. Dans une certaine mesure, nous sommes à l'origine comme cet homme qui est possédé par un démon, aveugle et muet. Cette personne est amenée à Jésus et c'est une assez bonne idée car elle sera guérie. Alors je ne crois pas qu'il existe une sorte de créature mystérieuse des démons qui nous rongerait de l'intérieur. Le démon, c'est précisément ces logiques qui nous prédéterminent, qui nous mènent par le bout du nez, qui obscurcissent notre vue, qui nous empêchent d'avoir notre mot à dire dans notre vie, qui nous empêchent de comprendre nos frères et sœurs. L'Esprit est créateur, nous dit la Bible, ou réparateur quand nous sommes blessés, créateur ou réparateur de notre capacité à voir clair et à avoir notre mot à dire. L'Esprit est libérateur, nous délivrant de nos démons, de la tyrannie de nos instincts et de nos prédéterminations plus ou moins inconscientes. L'Esprit est consolateur de nos souffrances, mais il est également consolateur dans le sens hébreu du terme, c'est-à-dire source de changement dans notre façon de voir, source de conversion. Et l'Esprit est notre défenseur, notre avocat, pas comme si Dieu était méchant et qu'on avait besoin d'être défendu auprès de lui, bien sûr, mais notre défenseur, notre avocat qui nous fait prendre conscience que pour Dieu nous sommes et nous serons toujours l'enfant qu'il chérit et qu'il aime tendrement et qu'ainsi nous puissions nous appuyer, nous ouvrir à cette dynamique de résurrection qu'il représente pour nous. Et dont Jésus nous dit que nous pouvons parler mal contre Dieu, nous pouvons le mépriser, le nier, le persécuter, alors c'est bien dommage. C'est bien ingrat, après tout ce qu'il fait pour nous, mais il ne nous abandonnera pour autant, alors finalement ce n'est pas si grave. Nous pouvons mépriser le Christ, c'est bien dommage, car c'est en lui que Dieu manifeste son salut, mais ce n'est pas pour autant que Dieu renoncera à vouloir nous faire du bien si nous méprisons le Christ, si nous le nions, finalement. Ce n'est pas si grave que cela. Mais celui qui rejette l'Esprit rejette le meilleur de lui-même et rejette tout secours, toute évolution possible. Ce n'est pas pour autant que Dieu changerait d'opinion et renoncerait à nous vouloir du bien. Au contraire, bien sûr, comme toujours. Mais celui qui rejette l'esprit serait comme un homme qui a des yeux et qui refuse de les ouvrir. Il reste dans la nuit. Il est comme un homme libre dont les portes de la prison, les chaînes sont ouvertes et qui refuserait de sortir de sa prison. Eh bien, il reste prisonnier. Ce serait comme être un enfant qui est à l'école et qui refuse d'apprendre. Ça ne va pas tellement l'aider à avancer. Ce serait être comme un homme qui refuse d'aimer la femme de sa vie qui pourtant lui envoie des lettres d'amour. Même Dieu, malgré son inimaginable puissance d'amour, même Dieu ne peut forcer quelqu'un à aimer, à espérer et à faire confiance. Quel est donc cet homme qui blasphème contre l'Esprit et que rien ne pourra sauver parce qu'il est complètement muré? Eh bien, cet homme, évidemment, c'est en partie chacun d'entre nous, mais en même temps, ce n'est personne en totalité. Il y a en chacun une part de refus et donc un manque d'être, un manque de mouvement, un manque d'avenir, un manque d'évolution, bien sûr. Mais en même temps, je suis persuadé que jamais personne ne pourrait être totalement dénué d'Esprit Saint. Ce serait intenable. Ce ne serait pas vivable, même une seconde. Ce serait une personne totalement dénuée de la moindre étincelle de désir de pouvoir un jour être aimée ou aimée. Ce serait une personne qui ne se réjouirait pas si tout d'un coup une nouvelle possibilité de vivre heureux lui était offerte sur un plateau d'argent. Ce serait une personne qui serait complètement coupée d'elle-même et des autres et de Dieu. Par contre, il est possible de se fermer à toute évolution, de se fermer à toute croissance spirituelle, de se fermer à un don supplémentaire d'esprit. Et oui, c'est une sorte d'enfer. Mais il y a et il demeurera toujours au moins une petite trace de l'Esprit Saint en chaque personne. Et donc il restera toujours une raison pour Dieu et pour ses enfants d'espérer et d'agir pour sauver ceux que l'on aime et ceux que l'on a du mal à aimer. Que Dieu nous soit ainsi en aide et ouvre notre être tout entier à la puissance de son Saint-Esprit. Amen.